Et Jésus dit, tu honoreras ton père, ta mère et le CRTC.
Fuck that shit, man.
Rocky.com, dans Boudin est totalement fier de l'être.
Rocky.com,
Rock Radio, Rock and Roll Station.
Hey toi, tu arrives du passé, du futur ou d'une autre planète et tu te demandes quelle est la merveilleuse fréquence sonore que j'écoute présentement.
Eh bien l'ami, c'est ton jour de chance.
Écoute Rocky.com, la meilleure radio internet.
Avant, la radio, c'était ça.
Mais maintenant, c'est Rocky.com.
This program contains scenes with nudity, sexuality, violence, and coarse language. Viewer discretion is advised.
Wake up!
Good morning, everybody.
Ismail X.
He's a good
guy. He's a good guy.
He's a good guy.
I say
that
for
the wake up!
Live@rockick.com, MSN Skype, live@rockick.com, MSN ou Skype. Façon facile et efficace de nous joindre ici en studio. Vous avez des questions à Claude Reichmann? Eh bien, c'est simple, vous pouvez nous écrire de cette façon-là. Peut-être même intervenir si vous le désirez. Du lundi au vendredi, wake up le show, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans votre monde, on se réveille tous ensemble. J'espère que ce coup-ci, ça pourra bien fonctionner. On a M. Reichmann, on va dire au bout de Skype, M. Reichmann, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui, en ce vendredi?
Très panier.
Oui, ça va bien de votre côté? On vous entend presque pas, à moins que vous ayez des difficultés, on va dire il y a des difficultés techniques pour l'instant.
Là maintenant.
Ah, oui, là je vous entends très bien là.
Bon, d'accord.
OK, parfait.
C'est bon là?
Oui, c'est bon. Alors voilà, on peut commencer. On peut commencer, M. Reichmann.
Allons-y.
Bon, c'est parti. Alors, il y avait un sujet qui me chatouillait un peu cette semaine concernant la France, bien sûr, avec Nicolas Sarkozy. Je pense qu'on en avait touché quelque peu, mais vous en aviez parlé la dernière fois, voilà déjà deux semaines. De Nicolas Sarkozy, de ses méthodes, de sa façon de gérer, enfin de travailler, et ça commence à agacer certains individus, à même son parti. Vous pouvez confirmer, je crois?
Oui, c'est tout à fait exact. Les députés de l'UMP s'inquiètent doublement. D'abord, ils sont tous plus ou moins candidats au prochain. Il y aura ensuite des élections cantonales, c'est-à-dire également, et puis d'autre part, la situation générale les préoccupe parce qu'elle n'est pas stable. Ce qu'il reproche à M. Sarkozy, d'abord, c'est sur un fonds d'ouverture qui n'a pas beaucoup de sens. Ils ont été élus pour mettre la barre à droite et ils s'aperçoivent que le gouvernement fourmille de personnalités de gauche.
Ben, M. Reichmann, je m'excuse de vous interrompre. Je crois que dorénavant, on va faire affaire par téléphone parce que la qualité, je comprends vraiment pas parce que l'année passée, lorsqu'on a. Ça marchait très très bien. Est-ce que vous aviez un micro-casque l'année passée?
Oui, j'avais exactement le même.
Le même? C'est vraiment étrange. Je ne comprends pas pourquoi. Moi non plus, je ne comprends pas. Ce que je vais faire, c'est je vous contacte à l'instant via téléphone, via ligne dure. Comme ça, Alors, à moins de deux, ça va prendre à peu près même pas une minute. Je vous recontacte dans quelques instants, M. Reichmann. C'est bon?
Oui, c'est bon.
OK, parfait. Alors voilà, je voudrais quand même vous offrir quelque chose de qualité, chers auditeurs. Vous qui êtes là en grand nombre, alors on va fonctionner sur la merde. L'ancienne, la bonne méthode, hein, le bon vieux téléphone. Je comprends pas comment ça se fait. Vous vous en rappelez même, je suis sûr que vous vous en souvenez tout le monde. Je suis sûr que vous êtes les premiers à vous rappeler que j'ai eu des entrevues avec ce monsieur. Et non, il y avait aucun problème de ce côté-là. Alors voilà, on va le contacter tout de suite. On va faire ça live, ça me dérange pas. C'est ça justement la beauté de la radio, c'est que c'est plus naturel que de la télé, voilà. Bon, alors on y va. On va composer le numéro. Est-ce que ça va répondre? Sûrement. Oh, voilà.
Allô?
Bonjour, bon.
Allô?
Oui, oui. Ça va mieux, là. Je crois que oui. La qualité est A1, M. Reichmann.
Bon, alors c'est parfait.
OK, reprenons du début.
D'accord.
Article qui a été écrit dans lemonde.fr et... On parlait, c'est ça, que Nicolas Sarkozy... Oh, il y a des gens qui commencent à le confronter, là, ouais, à même son parti.
Oui, c'est tout à fait exact, et ça se situe dans un contexte, finalement, de mécontentement par rapport à ce que l'on appelle l'ouverture. C'est-à-dire que la campagne électorale présidentielle et les élections législatives qui ont suivi se sont faites sur un climat de droite, manifestement, et c'est ce climat qui l'a emporté, puisque M. Sarkozy a été élu et qu'il a une majorité à l'Assemblée nationale. Et à la suite de cela, eh bien, on a vu fleurir un gouvernement avec de nombreuses personnalités de gauche, et M. Sarkozy a déclaré qu'il allait continuer l'ouverture. Alors ça s'est manifesté par d'abord un certain mécontentement, une grogne, et puis ensuite sont venus toute une série de déconvenus, parce que les députés qui sont tous plus ou moins candidats aux élections locales du mois de mars 2008 s'inquiètent évidemment pour leur élection à la tête d'une mairie, et d'autre part ils s'aperçoivent que la politique de M. Sarkozy est faite de sautillements et d'avancées et de reculs plus importants, et finalement ils ne voient pas très bien la finalité de tout ça, et d'ailleurs tout ce qui se passe actuellement va continuer de les décourager, car Monsieur Sarkozy s'est fait élire sur le thème de travailler plus pour gagner plus, c'est-à-dire de la croissance économique. Or, il s'affiche avec dans un sommet écologique, le Grenelle de l'environnement, comme il l'appelle, en compagnie de Monsieur Al Gore et de toutes ces personnes qui souhaitent, au fond, arrêter la croissance en s'abritant derrière des prétextes écologiques. Donc, tout ceci est totalement contradictoire et on peut supposer, moi j'en suis même pratiquement certain, que dans les semaines qui viennent, la majorité de M. Sarkozy va commencer à douter de plus en plus, et elle ne précédera que de peu le pays lui-même, qui est plein de scepticisme maintenant à l'égard des promesses de M. Sarkozy.
Est-ce que vous pouvez peut-être nommer des points sur lesquels ils ne sont plus ou moins favorables dans son parti envers Nicolas Sarkozy?
Le premier point, je vous l'ai dit, c'était l'affaire de l'ouverture.
Exactement.
Dont ils ne voient pas les avantages, et d'ailleurs ils ont raison, parce que une ouverture, ça n'a de sens que dans la mesure où il y a un accord politique.
Voilà.
Sinon, ce sont des personnalités que l'on débauche plus ou moins, et ça n'apporte strictement rien. Le deuxième point, c'est quand même la faiblesse des mesures qui sont prises par M. Sarkozy pour relancer l'économie. Par exemple, les heures supplémentaires ne peuvent pas être au rendez-vous, dans la mesure où c'est fort simple. Avant de faire les heures supplémentaires, il faut faire des heures normales. Or, l'activité économique est très faible. Et donc, même les heures normales, on n'arrive pas à les faire. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ferment. Il y a également des délocalisations. Donc, parler d'heures supplémentaires dans un tel contexte, c'est un petit peu comme si vous disiez à un pauvre, vous allez vous régaler avec mon dessert, mais avant, vous ne mangerez rien.
C'est bon, j'aime l'image.
Voilà. Et donc, ça, c'est un deuxième point d'inquiétude. Bon, il y en a pas mal d'autres également. Si vous voulez...
Mais c'est les points majeurs.
Pardon?
Ce sont les points majeurs que vous retenez.
Il y a également le budget.
Okay.
Bon, c'est un budget qui a été présenté à l'Assemblée nationale par M. Sarkozy et son gouvernement, avec un déficit de près de 42 milliards d'euros. Or, comment voulez-vous ralentir la dette, la croissance de la dette, si vous continuez de présenter chaque année un budget en déficit? Donc c'est une déception. D'autre part, aucune des mesures présentées pour essayer de limiter le déficit de la sécurité sociale n'a la moindre consistance. Il y a toujours un déficit béant de 12 milliards d'euros et aucune proposition sérieuse pour le diminuer. Donc les parlementaires et l'opinion publique commencent à se dire mais tout ceci va nous mener où et nous allons vers la catastrophe.
Effectivement. J'ai un deuxième sujet dont, qui a retenu mon attention. C'est M. Chirac qui dispose de ses factures selon ses avocats. Vous savez où est-ce que je m'en vais avec cela, affaire Euralair. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que, bon, on est du Québec, on est du Canada, on n'a peut-être pas suivi en entier ce qui s'est passé. Quelle est cette affaire, première des choses, l'affaire Euralair, est-ce que c'est nouveau, ou ça date déjà depuis un bon bout, que ça traîne déjà depuis un bon bout de temps?
Non, ça traîne depuis un bon bout de temps. Euralair, c'était une compagnie d'aviation qui a fait faillite et qui était dirigée par un ami de M. Chirac,
okay.
M. Couvelaire. Et donc, ce que l'on reproche à M. Chirac et à un certain nombre d'autres personnes, dont son épouse, c'est d'avoir été transporté gratuitement par la société Euralair, ce qui aurait constitué un abus de bien social.
Ah,
voilà. Et
okay.
Donc, il y a déjà eu, enfin, l'enquête est ouverte, il y a une procédure qui est en cours. M. Chirac ne pouvait pas être inquiété, lui, pendant qu'il était président de la République, en vertu d'une disposition de la Constitution.
Oui.
En revanche, Mme Chirac pourrait fort bien être entendue, et elle a bénéficié en effet d'un certain nombre de transports entre Paris, je crois, et la Corrèze, où elle est élue locale.
Okay.
Donc c'est une affaire qui n'est pas nouvelle, mais qui pourrait connaître des développements actuellement, en raison précisément du fait que M. Chirac, redevenu simple citoyen, peut de nouveau être entendu.
Ah, bon. Ça, dans le fond, M.
Reichmann,
l'exemple, le président de la France peut arriver comme ça et invoquer la Constitution et ne pas être obligé de comparaître. C'est bien ce que vous me dites.
Exactement, oui, c'est une disposition de la Constitution qui a d'ailleurs été renforcée au début de l'année 2007 par un nouvel article 67 de la Constitution qui précise... Et là, qui précise donc que le président ne peut être attrait, comme on dit, devant n'importe quelle juridiction, ni devant n'importe quelle procédure, même civile. Et la question s'est posée au moment du divorce de M. Sarkozy. Parce que certains ont dit, mais s'il y a un divorce judiciaire, M. Sarkozy ne peut pas être entendu par la justice, par conséquent, le divorce est impossible. Alors finalement, ça s'est arrangé, si j'ose dire. Ils ont divorcé par consentement mutuel.
Ok. J'avais l'impression, M. Reichmann, cette histoire de séparation entre Nicolas et Cécilia, bien sûr. J'avais l'impression que c'était couvert comme si c'était deux stars, là, deux stars de la pop ou du rock ou quelque chose comme ça. On aurait très bien pu les mettre dans des magazines. Hein, dans les magazines pour les jeunes adolescentes, là. Oh mon Dieu, le couple se sépare ou quelque chose comme ça. Ça m'a donné vraiment cette impression. On a couvert cette histoire comme si c'était les gens riches et célèbres ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est Beautiful People.
Oui, exact. Beautiful People, oui, exactement.
C'est d'ailleurs une déviation de la politique. Parce
oui.
Que c'est tout à fait anormal qu'on traite un président de la République et sa femme comme des stars, et surtout qu'ils se prêtent eux-mêmes à ce genre de mise en scène.
Mais c'est voulu.
Il ne faut même pas oublier qu'ils ont mis en scène leur couple pendant des années comme un élément de plus pour la popularité de M. Sarkozy. Et alors ensuite, je l'ai entendu à une télévision l'autre jour au Maroc où il faisait un voyage officiel, se plaindre amèrement d'une question qui lui était posée à ce sujet et vituperer contre les journalistes, alors même que c'est lui qui était demandeur tout le temps. Donc c'est d'une hypocrisie totale. Moi, personnellement, je suis tout à fait défavorable à la pipolisation, comme on dit, de la vie publique. Et d'autre part, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, l'histoire des paparazzi et tout ça n'existe que quand les gens veulent bien s'y prêter. Parce que si je connais l'exemple d'un certain nombre d'artistes...
Oui.
De chanteurs, de comédiens et autres qui ne cultivent pas ce genre de choses, ils me disent qu'ils sont tout à fait tranquilles, quoi. On leur fout la paix, pour tout dire, voilà.
Ouais, exactement.
Mais on leur fout pas la paix quand ils se mettent eux-mêmes en avant.
Mais ils vivent
très... Ce qui est le cas de, du couple de Sarkozy. Et alors, le plus extraordinaire de l'affaire, oui, c'est que lorsque le divorce a été annoncé, dans les 2-3 jours qui ont suivi, Madame Sarkozy s'est affichée dans tous les magazines qui ont fait des gros tirages, d'ailleurs, ce qui prouve qu'elle faisait vendre. Mais ce qu'elle disait était tout à fait extraordinaire. Elle disait « Je n'aspire qu'à l'effacement, qu'à la modestie, etc. Oh. » Elle le disait devant à des millions de personnes. Je veux dire, vous savez, c'est un peu le paradoxe de... du type qui dit « Moi, pour la modestie, je ne crains personne. »
Exactement. Oui, mais c'est, je suis riche, mais je n'en ai pas de besoin, par exemple. Hein? Oui. Je pourrais donner mon... je n'ai pas besoin de vivre dans le luxe, tant qu'à y être. Hein?
Oui.
C'est un peu ce que j'ai vu de toute cette histoire.
Oui, c'est
et,
ça.
Et,
c'est
et, ça. On, et pendant ce temps-là, on ne travaille pas sur le vrai débat. C'est-à-dire,
voilà.
C'est ça qui m'agace, cette attitude, et c'est un peu la même chose ici, hein. Par exemple, notre premier ministre utilise sa femme, elle est très belle, comme Cécilia Sarkozy, oui. Elle est très jolie, belle femme, oui. et vraiment, on dirait que c'est la nouvelle méthode du 21e siècle, pour vraiment avoir les spotlights, pour avoir les feux, pour être sous les feux de la rampe, mais sous cette tendance-là. Non pas pour regarder exemple, bon, le pays est endetté, comment va l'économie, etc. Non, non, non. On s'attaque sur la futilité la plus totale, c'est-à-dire le couple.
Vous avez raison, c'est une façon de ne pas aborder les vrais problèmes.
Voilà.
Et ce qui est fâcheux, hein, que les hommes politiques aient envie qu'on ne parle pas des problèmes, c'est normal quand ils n'essayent pas eux-mêmes de les résoudre, quand ils ne font pas ce qu'il faut. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que la presse se livre à ce jeu-là. Alors, que la presse people le fasse, c'est normal, c'est son boulot. Mais que la presse politique en parle d'une manière excessive, c'est totalement contre-productif sur le plan démocratique. Et,
voilà.
Et vous savez, les problèmes sont tels en France qu'on commence à envisager très sérieusement la faillite de l'État, avec tout ce que ça impliquera de misère, de malheur et autres.
Sérieusement ?
Et pendant,
oh, oui.
Pendant ce temps-là, la presse titre sur les malheurs de Cécilia et de Nicolas.
On nous dit via le live @rocky.com, les auditeurs nous disent un peu comme l'Empire romain, M. Reichmann.
Oui, le pain et les jeux, voilà.
Voilà. Alors, c'est vers ça qu'on s'en va en ce moment, de votre côté, en France.
Ah oui, là, actuellement, nous venons de passer un mois et demi avec la Coupe du Monde de rugby. Alors, personnellement, j'aime bien le rugby, mais je veux dire qu'il y en avait des titres et des titres, et donc les gens se sont passionnés pour cette affaire de rugby, et en même temps pour le divorce du président. Et alors, ça me faisait beaucoup penser à Byzance, vous savez, en 1453, quand Byzance était assiégée depuis longtemps, d'ailleurs, par les Turcs, les Byzantins s'intéressaient à deux choses, le sexe des anges et les courses de cochers.
Oh.
Voilà, et donc, et pendant ce temps-là, les barbares étaient aux portes. Et donc, la France, aujourd'hui, n'a pas... en tout cas, les Turcs, bon, ils veulent rentrer dans l'Union Européenne, mais enfin, ils n'ont pas encore mis le siège devant la France. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a un véritable siège,
oui,
qui est mené pacifiquement, d'ailleurs, par l'ensemble du monde qui s'est, lui, converti au libre-échange et au libéralisme. Donc, l'économie française est assiégée.
Mais Monsieur Reichmann...
C'est ce qu'on appelle la guerre économique, mais c'est une guerre qui est excellente pour tout le monde. Il faut,
oui,
la gagner, c'est tout.
Monsieur Reichmann...
La France n'arrive pas à réduire ses dépenses,
oui,
et elle se dirige allègrement vers la faillite.
Je vous crois pas, Monsieur Reichmann. Je trouve que vous exagérez énormément. C'est pas grand-chose, une dette de 2 220 milliards. Voyons.
Ben oui, mais parce que vous êtes riche. C'est pour ça que je dis ça. Vous avez fait vos petites économies et,
oui,
vous savez que vous allez vous en tirer.
Ouais, je pourrais racheter la France deux fois.
Ben voilà.
Mais
quand vous serez le patron en France, il est certain que vous mènerez une belle vie.
Ah, je vous nomme tout de suite.
En France, celui qui est le patron, il est au-dessus de tout.
Sincèrement, je vous nomme tout de suite ministre des Finances ou je sais pas.
C'est gentil.
Je pourrais. Ah. Soit vous.
Gentil, je me réjouis à l'avance et je vais déjà commencer à faire mon programme de détournement.
Oui. Est-ce que vous avez suivi un peu ce qui s'est passé en Suisse romande concernant l'UDC? L'UDC.
Oui.
Je suis de l'extérieur, c'est encore un peu ce problème, et je me demande, est-il vrai que c'est
un parti qui est dangereux, parce que j'ai l'impression qu'on démonise énormément l'UDC comme un parti de dangereux, un parti d'extrême droite ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est ce
qu'on... c'est un parti qui se présente sous un qui estime que l'immigration est excessive,
oui,
et qui souhaite la réduire. Qui a, au moment de la campagne électorale, qui a présenté quelques affiches, personnellement je trouve qu'elles n'étaient pas terribles, avec les moutons blancs qui chassaient un mouton noir, enfin, c'est un peu ridicule, mais enfin, ce qu'ils disent,
l'essentiel,
je ne vois pas pourquoi on dit que c'est un parti dangereux, ou il ne peut être dangereux dans la mesure où on considère qu'il faut ouvrir toutes les frontières à l'immigration. Alors dans ce cas-là, effectivement, c'est un danger pour l'immigration.
Okay.
Mais sinon, c'est un parti traditionnel de droite, d'une droite un peu ferme, qui estime que les choses vont mal et qu'il faudrait arrêter un petit peu tout ça, mettre un terme à cette immigration excessive et mettre un peu d'ordre dans le pays. Bon, ça n'est jamais qu'un parti de droite. Alors évidemment, dès que vous êtes un peu de droite, il se passe ce qu'on appelle la réductio ad Hitlerum, c'est-à-dire dès que vous prenez des... Pour vous disqualifier, on vous traite d'Hitler, de nazi, de fasciste, etc. C'est une assimilation qui est vraiment stupide et grave. Mais vous savez que cette assimilation n'est pas une invention contemporaine, c'est une invention du Comintern. C'est le Comintern qui était donc l'organisme chargé de faire, à partir de Moscou, la propagande communiste, et qui avait adopté la méthode qui consistait à disqualifier toute personne qui critiquait le communisme ou qui lui était hostile en le qualifiant de fasciste. Et ça a très bien marché, et ça marche toujours. Alors ça n'est plus le Comintern, mais la méthode n'a pas été abandonnée. Et actuellement, dès que vous avez une formation politique qui estime qu'il faut mettre un terme à l'excès d'immigration, eh bien tout de suite, vous êtes des nazis. De même dans l'affaire des tests ADN en France que vous avez peut-être suivi, vous savez, les tests qu'on doit faire pratiquer pour ceux des candidats à l'immigration qui ne peuvent pas justifier le papier en règle, eh bien, ces tests ADN ont donné lieu encore à un débat où on parlait d'hitlérisme, de nazisme, d'eugénisme. Ça n'avait strictement rien à voir avec le problème, ni rien à voir d'ailleurs avec les difficultés que pose l'immigration.
Jusqu'aux dernières nouvelles, il me semblait que le nazisme était de gauche, M. Reichmann.
Ah ben oui, le nazisme, c'était le national-socialisme, c'est ça que ça veut dire nazi. Nazi-national-socialisme. Donc l'ensemble des mouvements nazis et fascistes étaient des mouvements issus de la gauche. Monsieur Mussolini était un homme de gauche, un socialiste. Bon, le mouvement nazi était évidemment un mouvement national, certes, mais socialiste. Et donc on a essayé, après la guerre, de faire croire que les nazis c'était l'extrême droite, et donc ceux qui le disaient, évidemment, c'était les gens de gauche. Ça leur permettait, eux, de se dédouaner de toute imputation de collaboration ou de nazisme, et d'en affecter la droite, qui effectivement a été souvent collaborationniste, mais elle n'a pas de loin été la seule. Et d'autre part, bon, il est vrai que c'est le régime de Vichy, qui était un régime de droite, qui a attrapé en quelque sorte tout ce que la collaboration pouvait avoir de critiquable et de haïssable, mais il n'empêche que la plupart des collaborateurs étaient des gens de gauche, des socialistes. Les grands apôtres de la collaboration, c'était des socialistes. Et la raison de cela en France, c'était qu'ils étaient pacifistes. Donc, pacifistes et socialistes. Donc, tout ça, c'est fait de telle manière qu'aujourd'hui, le débat est pollué en permanence par
très
ce genre d'incitation. Mais si vous voulez, le vrai problème actuellement, ça n'est même pas qu'il y ait qu'on dise ces choses-là, mais qu'on accorde de l'importance à ces choses. Parce que s'il y avait des journalistes dignes de ce nom, ils diraient, mais attendez, vous nous expliquez cela, et en même temps, vous oubliez de dire que. Donc là, ça obligerait les gens à faire attention. Ben, je vais vous donner un exemple qui, lui, est positif. Il y a un journaliste, un excellent journaliste, qui est l'éditorialiste du Figaro, qui s'appelle Yvan Rioufol. Et Yvan Rioufol, qui tient une rubrique éditoriale tous les vendredis, a écrit aujourd'hui, mais ça n'était pas la première fois, il avait déjà rectifié des choses. Vous avez sans doute entendu parler de Guy Môquet.
Oui.
C'est-à-dire de ce jeune homme qui a été fusillé par les Allemands.
Exact.
Alors, Guy Môquet a écrit une lettre très émouvante à ses parents avant d'être fusillé, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'au-delà de l'émotion qui est réelle et de son courage qui est réel aussi, ce garçon a été pris en réalité en distribuant des tracts collaborationnistes et antisémites. Donc, si vous voulez, lisez sur Internet, vous verrez la chronique d'Yvan Rioufol et vous verrez le contenu des tracts que distribuait Guy Mocquet. C'était des tracts ouvertement antisémites. Alors aujourd'hui, on donne un exemple à tous les enfants de France, un jeune garçon qui, malgré son âge, parce que son père était député communiste, distribuait des tracts favorables au Parti communiste et donc critiquant les Juifs et les critiquant d'une manière typiquement antisémite. Alors vous voyez où on en est, on honore actuellement en France, on fait lire dans les écoles cette lettre émanant donc d'une personne qui, même si elle était jeune et qu'elle avait l'excuse de l'âge, n'en véhiculait pas moins des thèmes abominables.
J'allais vous poser une question, il y a quelqu'un qui m'a devancé sur le live @rocket.com concernant le fait, est-ce qu'on peut comparer Jean-Marie Le Pen à l'UDC ou pas du tout? Est-ce que Jean-Marie Le Pen, on peut le considérer de droite ou pas?
Je crois qu'il y a, enfin bon, il y a évidemment une certaine proximité qui tient pour l'essentiel au thème de l'immigration. Mais pour le reste, ben, je pense que Monsieur Blocher, Christophe Blocher, qui est le leader de l'Union démocratique du centre, est un politicien beaucoup plus classique que ne l'est Jean-Marie Le Pen, bien que celui-ci soit un politicien ancien. Il a été député sous la 4e République déjà. Mais je pense que le mouvement, enfin le Front National, n'a pas vraiment défini ses thèmes économiques, alors que l'Union démocratique du centre me paraît un peu plus cohérente. Enfin bon, disons que le point de rencontre, c'est quand même la critique de l'immigration. D'ailleurs, de ce point de vue-là, okay, si Jean-Marie Le Pen n'avait pas tenu des propos parfois outranciers,
oui,
je crois qu'il y a longtemps qu'il serait, sinon au pouvoir, du moins aux portes du pouvoir, parce que
ce qu'il a dénoncé
était vrai. Il a dénoncé une immigration excessive, mais écoutez, d'abord, c'était la vérité, et c'est toujours la vérité, et j'ai écrit un article il y a quelques jours, oui, intitulé « La vérité par les cantines ». On a appris que, dans un article du Monde, que les cantines scolaires de la ville de Lyon proposaient un menu différent pour ceux qui ne mangeaient pas de porc, et que ce menu allait être ensuite modifié. Et on a
exact.
Il y avait 30% des enfants de la ville de Lyon qui ne mangeaient pas de porc, qui prenaient l'autre menu, ce qui veut dire que il y avait 30% de musulmans. Alors vous imaginez ce que ça représente, c'est la ville de Lyon, ce n'est pas la banlieue de Lyon.
C'est ça.
Donc dans la ville de Lyon, vous avez déjà 30% d'enfants musulmans. Alors quand on nous dit que l'immigration ne représente que 5 à 6% comme le disent parfois les officiels, c'est une vaste fumisterie.
C'est ça.
Quand il y a 30% d'enfants musulmans, donc issus de l'immigration, ça va de soi, vous ne pouvez pas dire que l'immigration n'est pas un problème.
Ben, ici, je pourrais vous donner des exemples fort intéressants. Monsieur Reichmann, par exemple, c'est drôle, mais on fait beaucoup d'accommodements raisonnables. Si on peut appeler ça, similaire à ce qui s'est passé concernant Lyon.
Oui.
Et d'avoir enlevé le porc, hein, c'est ça, ils ont enlevé le porc carrément du menu et d'autres, oui, d'autres produits alimentaires. Ici, avez-vous entendu parler de l'histoire de Saïd Jaziri, l'imam du Canada qui s'est fait déporter en Tunisie? Peut-être pas
non,
du tout.
Je n'ai pas entendu parler de ça, non.
Peut-être pas du tout. Imam qui avait des propos, mais très, très, très enflammés, M. Reichmann.
Ah oui, je me souviens maintenant. Son nom ne me disait rien, mais je me souviens de l'affaire de cet imam, oui.
Oui, exactement. Hier, nous avons eu une entrevue avec sa femme, mais tout à l'heure, dans le coin de 15h ou quelque chose comme ça, si jamais vous êtes en mesure d'écouter l'entrevue, je vous assure, ça risque d'être une entrevue choc, si je peux me permettre. Oui, oui, sanguignolant, exactement.
Comme tout ce que vous faites sur Rockick.
Oui, hein, oui, tout à fait, tout à fait. Ah, c'est une habitude, monsieur.
Voilà.
Exact. Alors, c'est sûr que avec le vocabulaire que j'utilise par moment, bon, plusieurs personnes considèrent que je suis un petit peu trop people, moi aussi. Alors,
c'est la liberté, il faut se laisser aller un petit
mais
peu
oui,
quand même.
Mais oui, ça fait du bien. Et puis, moi, ce que j'apprécie... Ce que j'apprécie aussi, par exemple, juste de discuter avec vous, c'est un excellent mélange des gens, ma génération, la vôtre, et j'apprends énormément avec vous, je tiens à vous le dire.
Merci.
J'apprends énormément avec vous, M. Reichmann, et parce que je crois que c'est nécessaire que je m'excuse, peut-être ça va vous vexer, mais comme vieux et jeune, il faut qu'il y ait une...
Non, il faut dire que c'est les jeunes et les jeunes.
Oui, oui. on va dire, tiens, la sagesse de M. Reichmann et la fougue d'Ismaël Trépanier, la jeunesse...
Et voilà, ça fait un beau mariage, mais pas homosexuel.
Non, exactement. Oui. Hey, vous en avez dedans, hein, vous.
Ah, bah écoutez, faut bien rire un peu, comme disait l'autre.
Oui, tout à fait, M. Reichmann. Je sais pas, il fait chaud, là. Une chose est certaine, c'est que c'est ce qui est intéressant avec le www.rockkick.com, du fait que vous soyez là, qu'on puisse parler d'actualité comme ça, oui. À brûle pour point. Puis,
bien sûr.
Je pense que les auditeurs apprécient beaucoup, et aussi de vous retrouver depuis votre départ de Radio Courtoisie.
Oui, bien sûr.
Avez-vous déjà pensé, tiens, je vous lance la question, avez-vous déjà pensé retourner sur Radio Courtoisie faire des émissions, ou pas du tout?
Ah non, mais c'est impensable, le Radio Courtoisie.
C'est terminé. Hein.
Je l'ai quitté pour les raisons que vous savez,
oui.
Donc comme la situation n'a en rien changé, je n'ai aucune raison. Puis d'autre part,
j'allais vous en poser une. Je m'excuse.
Les moyens d'expression
oui.
sont d'ores et déjà supérieurs à l'audience de Radio Courtoisie, donc je ne vois pas très bien ce que j'irais faire et ce que j'aurais à gagner à reprendre des émissions. Donc là, pour l'instant, Reichmann TV se développe très bien.
Très bien, hein.
Ah oui, très très
tout
bien,
à fait.
Ça marche vraiment très bien, et donc il y a beaucoup de... Bon, je participe à diverses émissions, dont la vôtre, et j'ai largement de quoi m'exprimer, donc je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs.
Fantastique, c'est parce que je disais ça comme ça, parce que depuis que vous savez qu'il y a quelqu'un qui est décédé de Radio Courtoisie, je me disais, bon, peut-être que le mal est passé d'une façon de parler, mais le mal est passé et que ça pourrait ouvrir une nouvelle porte ou enfin un nouveau visage pour Radio Courtoisie qui, je crois,
a beaucoup... La situation est bloquée.
Et pareil,
ah oui. Celui qui dirige Radio Courtoisie le fait d'une manière qui, à mes yeux, n'est pas convenable.
Cavalière, oui.
Quelles que soient les personnes qui décèdent, ça ne change rien au fait que cette radio ne va pas dans un sens qui me paraît correct et donc... Je préfère la laisser vivre jusqu'à ce qu'elle disparaisse, hélas, parce que je crains que ce ne soit son sort. Je dis hélas, non pas par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui,
non.
mais par rapport à ce qu'elle a été, parce que pendant j'y ai collaboré quand même pendant 16 ans et pendant 19 ans, donc cette radio a existé et a donné la parole à des gens extrêmement divers dans des conditions qui étaient quand même tout à fait favorables à la liberté. Bon, ça n'est plus le cas maintenant, et donc... tirons, comme on dit, ou jetons le manteau de Noé.
Monsieur Reichmann, attendez un instant, je vous dis juste une chose, merci, ok, yes. J'apprécie vos interventions, j'espère qu'on pourra longtemps continuer ainsi.
Tant que vous voulez.
Exactement, merci, Monsieur Reichmann, je vous dis tout de suite, merci, bonne journée, il faut que je parte, il faut qu'on passe déjà en publicité, mais...
D'accord, et donc à vendredi prochain.
Oui, alors. Tout à fait, désolé pour la dernière fois, comme je vous expliquais, c'est des raisons techniques.
Vous avez une panne d'ordinateur, je crois.
Oui, des raisons techniques, Monsieur Reichmann. Alors...
c'est des choses qui arrivent.
Excellent week-end, Monsieur Reichmann.
À vous aussi,
Au revoir.
Vendredi prochain.
Au revoir. Alors, c'était Claude Reichmann. Christian, toujours très intéressant.
Toujours super intéressant, monsieur Reichmann, sérieusement.
Ah oui.
Beaucoup d'actualité.
Ah, chérie, aujourd'hui, je suis allée faire les courses avec Stéphanie. On est allé acheter des robes et des soutiens-gorge. Regarde, j'ai acheté cette robe verte.
Mets-toi là dans le cul, ta robe, ok? J'écoute rockkick.com.
Ah, je suis dans mes oreilles.